La littérature autour des termites suffit à fixer les grandes lignes d'une organisation politique, économique et sociale. En d'autres termes, d'une destinée, qui préfigure peut-être du train dont nous allons, et si nous ne réagissons pas avant qu'il soit trop tard, celle qui nous attend. Il est possible que nous y trouvions quelques indications intéressantes et de profitables leçons. Sans en excepter les abeilles et les fourmis, en ce moment, il n'y a pas sur cette terre d'êtres vivants qui soient tout ensemble aussi loin et aussi près de nous, aussi misérablement, aussi admirablement, aussi fraternellement humains. Nos utopistes vont chercher aux limites où l'imagination se décompose des modèles de société future, alors que nous en avons sous les yeux qui sont probablement aussi fantastiques, aussi invraisemblables et qui sait, aussi prophétiques que ceux que nous pourrions trouver dans Mars, Vénus ou Jupiter. C'est pourquoi il m'a semblé qu'il n'était pas oiseux de s'intéresser un instant à cet insecte, souvent odieux, mais parfois admirable, de tous les êtres vivants que nous connaissons, celui qui, d'une misère égale à la nôtre, a su s'élever à une civilisation qui, à certains égards, n'est pas inférieure à celle que nous atteignons aujourd'hui.
Assise à côté de sa sœur sur le talus, Alice commençait à être fatiguée de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur, mais il n'y avait dans ce livre ni image ni dialogue. Et, pensait Alice, à quoi peut bien servir un livre sans image ni dialogue? Elle était donc en train de se demander, dans la mesure du possible, car la chaleur qui régnait ce jour-là lui engourdissait quelque peu l'esprit, si le plaisir de tresser une guirlande de pâquerettes valait la peine de se lever pour aller cueillir les pâquerettes. Lorsqu'un lapin blanc aux yeux roses vint à passer auprès d'elle en courant. Il n'y avait là rien de particulièrement remarquable, et Alice ne trouva pas non plus très extraordinaire d'entendre le lapin dire à part soi « oh là là, je vais être en retard ». Lorsqu'elle y repensa par la suite, elle admit qu'elle eût dû s'en étonner, mais sur le moment, cela lui parut tout naturel. Pourtant, quand le lapin s'avisa de tirer de son gousset une montre, de consulter cette montre, puis de se remettre à courir de plus belle, Alice se dressa d'un bond, car l'idée lui était tout à coup venue qu'elle n'avait jamais vu de lapin pourvu d'un gousset ou d'une montre à tirer de celui-ci. Brûlant de curiosité, elle s'élança à travers champs à la poursuite de l'animal, et elle eut la chance de le voir s'engouffrer dans un large terrier qui s'ouvrait sous la haie. Un instant plus tard, elle s'y enfonçait à son tour, sans du tout s'inquiéter de savoir comment elle en pourrait ressortir. Le terrier était creusé d'abord horizontalement, comme un tunnel, puis il présentait une pente si brusque et si raide qu'Alice n'eut même pas le temps de songer à s'arrêter avant de se sentir tombée dans ce qui semblait être un puits très profond. Il faut croire que le puits était très profond, ou alors la chute d'Alice était très lente, car en tombant, elle avait tout le temps de regarder autour d'elle et de se demander ce qui allait se produire.
La termitière classique, celle des grandes espèces, est toujours souterraine. Rien n'est plus déconcertant, plus fantastique que l'architecture de ces demeures. Ce qui explique les bizarreries de ces architectures, c'est que le termite ne construit pas comme nous ses maisons du dehors, mais du dedans. Non seulement, étant aveugle, il ne voit pas ce qu'il édifie, mais même s'il voyait, ne sortant jamais, il ne pourrait s'en rendre compte. Il ne s'intéresse qu'à l'intérieur de son logis, et non point à son aspect extérieur. Quant à la façon dont il s'y prend pour bâtir ainsi à tâtons, ce qu'aucun de nos maçons n'oserait hasarder, C'est un mystère qui n'est pas encore bien éclairci. On n'a pas encore assisté à l'édification d'une termitière et les observations de laboratoire sont difficiles. Il ne faut pas perdre de vue que le termite est avant tout un insecte souterrain. Il s'enfonce d'abord dans le sol, le creuse, et le monticule qui émerge n'est qu'une superstructure accessoire, mais inévitable, formée de déblais transformés en logements, qui s'élèvent et s'étendent selon les besoins de la colonie.
Je verrais le jardin beaucoup mieux, se dit Alice, si je pouvais gagner le sommet de cette colline. Et voici un sentier qui y mène tout droit. Ou plutôt, non, pas tout droit, rectifia-t-elle après avoir suivi le sentier sur quelques mètres et pris plusieurs tournants brusques. Mais je suppose qu'il finira bien par y mener. Comme il se tortille de bizarre façon, plutôt qu'un sentier, on dirait un tire-bouchon. Bon, ce tournant-ci va à la colline, je suppose. Eh bien non, il n'y va pas. Tout au contraire, il me ramène directement à la maison. Puisqu'il en est ainsi, je vais essayer de le suivre en sens inverse. C'est ce qu'elle fit. Allant de bas en haut, puis de haut en bas, prenant tournant après tournant. Mais quoi qu'elle tentât, se retrouvant toujours en vue de la maison. Il lui arriva même, alors qu'elle venait de prendre un tournant plus vite que d'ordinaire, de ne pouvoir s'arrêter à temps pour éviter de se cogner contre la façade. Inutile d'insister, déclara la fillette en regardant la maison comme si elle discutait avec elle. Je ne rentre pas encore. Je sais qu'il me faudrait de nouveau traverser le miroir, revenir dans le salon, et que ce serait la fin de l'aventure. Donc, tournant résolument le dos à la maison, elle reprit une fois de plus le sentier, bien décidée à marcher jusqu'à ce qu'elle eût atteint le haut de la colline. Pendant quelques minutes, tout alla bien, et elle était en train de dire « Cette fois-ci, je suis sûre et certaine d'y parvenir. » Quand le sentier brusquement bifurqua et s'ébroua, c'est du moins le terme qu'employa par la suite Alice en racontant ce qui lui était arrivé. Et à l'instant suivant, elle se trouvait bel et bien en train de franchir le seuil de la maison. « Oh, c'est trop fort !» s'écria-t-elle. « Je n'ai jamais vu une maison se mettre ainsi en travers de votre route. Non, jamais !» Cependant, la colline était là, bien visible. Il n'y avait donc qu'à se remettre en marche.
C'est une histoire merveilleuse qui ressemble à un livre d'aventure. Tout commence vraiment le 8 septembre 1940, alors que la guerre fait rage. À Montignac, en Dordogne, loin du front, quatre amis font une balade dans les collines avoisinantes. Jacques, Georges, Simon et Marcel sont accompagnés de Robo, le chien de Marcel. Brusquement, ce dernier part à la poursuite d'un lapin et s'engouffre dans une petite cavité sous un arbre déraciné. Impossible de voir où conduit cet orifice, l'entrée est trop petite. Mais il paraît que des tunnels mènent au souterrain du château voisin. Certains parlent même d'un trésor caché. Alors, quatre jours plus tard, le 12 septembre 1940, les aventuriers reviennent, un peu équipés, et dégagent l'accès d'un petit corridor en pente. Ils y pénètrent et au bout de quelques centaines de mètres d'éboulis, ils arrivent dans une salle sombre et humide. Ils viennent de découvrir intact l'un des plus anciens et plus importants témoignages originels de l'histoire de l'homme. La grotte a été miraculeusement protégée des ruissellements et de l'air extérieur par une épaisse couche argileuse. Dans la pénombre, il devine sur les plafonds de plusieurs salles une multitude d'animaux fantastiques peints sur les parois. Le lendemain, ils y retournent avec une corde qu'il déroule dans l'orifice s'ouvrant au sol. Marcel s'aventure le premier dans ce puits profond de 8 mètres. Il découvre alors la scène de l'homme affronté au bison. Sous la forme d'une peinture exceptionnelle, l'homme de Lascaux sut ensevelir au plus profond cette énigme qu'il nous propose. À vrai dire, il n'y eut pas d'énigme à ses yeux. Pour lui, cet homme et ce bison qu'il représentait eurent un sens clair. Mais nous devons maintenant désespérer devant l'image obscure que les murs de la caverne nous proposent. Celle d'un homme au visage d'oiseau qu'affirme un sexe droit, mais qui s'effondre. Cet homme est en train de tomber devant un bison blessé. Celui-ci va mourir, mais faisant face à l'homme, il perd affreusement ses entrailles. Un caractère obscur, étrange, isole cette scène pathétique de laquelle rien de ce temps ne peut être rapproché. Au-dessous de l'homme renversé, un oiseau, dessiné du même trait, à l'extrémité d'un bâton, achève d'égarer la pensée. Plus loin, vers la gauche, un rhinocéros s'éloigne, mais il n'est pas sûrement lié à la scène où le bison et l'homme nous apparaissent unis dans l'approche de la mort. Malgré la promesse que les adolescents se font de garder farouchement le secret, la nouvelle se répand dans le petit village comme une traînée de poudre. Les quelques érudits du bourg, dont l'instituteur, M. Laval, comprennent rapidement la portée de la chose. Par la suite, les scientifiques ébahis n'en finiront pas de découvrir la richesse picturale du site. On répertorie 540 mètres carrés, ornés de 680 fresques et pas moins de 1500 gravures. Les quatre gamins intrépides entreront définitivement dans la postérité comme les inventeurs, selon le terme consacré, de la grotte de Lascaux. Que dire ici de cette évocation frappante, depuis des millénaires ensevelie dans cette profondeur perdue, pour ainsi dire inaccessible.
Sous une voûte ténébreuse, basse et colossale, si on la compare à la taille normale de l'insecte, l'emplissant presque tout entière, s'allonge comme une baleine entourée de crevettes, l'énorme masse grasse, molle, inerte et blanchâtre de l'effroyable idole. Elle n'est qu'un gigantesque ventre gonflé d'œufs, à en crever, absolument comparable à un boudin blanc d'où émerge à peine une tête et un corselet minuscule, pareil à un bout d'épingle noir fiché dans un saucisson de mie de pain. Des milliers d'adorateurs la caressent et la lèchent sans arrêt, mais non point sans intérêt, car l'exsudation royale paraît avoir un attrait tel que les petits soldats de la garde ont fort à faire d'empêcher les plus zélés d'emporter quelques morceaux de la divine peau afin d'assouvir leur amour ou leur appétit. Aussi, les vieilles reines sont-elles cousues de glorieuses cicatrices et semblent rapiécées. Autour de la bouche insatiable, s'empressent des centaines d'ouvriers minuscules qui lui entonnent la bouillie privilégiée, pendant qu'à l'autre bout, une autre foule environne l'orifice de l'oviducte, recueille, lave et emporte les œufs à mesure qu'ils s'écoulent. Parmi ces multitudes affairées, circulent de petits soldats qui y maintiennent l'ordre et encerclent le sanctuaire, lui tournant le dos face à l'ennemi possible et rangé en bon ordre. Des guerriers de grande taille, mandibules ouvertes, forment une garde immobile et menaçante. Le couple royal, ce couple mélancolique à perpétuité confinée dans une cellule oblongue, est exclusivement chargée de la reproduction. Le roi, sorte de prince consort, est minable, petit, chétif, timide, furtif, toujours caché sous la reine, n'ayant d'insignifiantes petites pattes qu'au corselet noyé dans la graisse. La reine est absolument incapable du moindre mouvement. Elle pond en moyenne un œuf par seconde, c'est-à-dire plus de 86 000 en 24 heures et de 30 millions par an. Autant qu'on a pu l'observer, il ne semble pas que de jour ou de nuit, durant les 4 ou 5 ans de sa vie, elle puisse interrompre sa ponte. Dès que sa fécondité diminue, probablement sur l'ordre de ses contrôleurs ou de ses conseillers inconnus dont nous retrouvons partout l'implacable ingérence, on la prive de toute nourriture. Elle meurt de faim. C'est une sorte de régicide passif et très pratique dont nul n'est personnellement responsable. On dévore ses restes avec plaisir car elle est extrêmement grasse et on la remplace par une des pondeuses supplémentaires.
Lorsqu'elle y réfléchit par la suite, Alice ne put jamais très bien comprendre comment cela avait commencé. Tout ce dont elle se souvint, c'est qu'elle courait en se tenant par la main et que la reine allait si vite que la fillette avait toutes les peines du monde à se maintenir à sa hauteur. Et aussi que la reine ne cessait de crier « Plus vite, plus vite !» et qu'Alice sentait bien qu'elle ne pouvait aller plus vite, encore qu'elle n'eût pas assez de souffle pour le dire à haute voix. Ce qu'il y avait de plus curieux dans l'aventure, c'est que les arbres et les autres objets qui les entouraient ne changeaient pas du tout de place, si vite qu'elles courussent. Il semblait qu'elles ne dépassassent jamais rien. Je me demande si toutes les choses se déplacent dans le même sens et avec la même vitesse que nous, pensait déconcertée la pauvre Alice. Et la reine semblait deviner ses pensées, car elle criait « Plus vite ! N'essayez pas de parler !» Alice n'en éprouvait pas la moindre envie. Il lui semblait qu'elle ne serait jamais plus capable de dire un mot, tant elle était essoufflée. Et pourtant, la reine continuait de crier « Plus vite, plus vite !» en l'entraînant de force vers un but indéterminé. « Allons-nous y arriver bientôt ?» parvint enfin à articuler haletante la fillette. « Y arriver bientôt !» répéta la reine. « Ma foi, nous sommes passés devant. Voici 10 bonnes minutes. Plus vite !» Elles continuèrent de courir durant quelque temps en silence. Le vent sifflait aux oreilles d'Alice et elle avait l'impression que ce vent allait lui arracher les cheveux. « Allons, allons !» criait la reine. « Plus vite, plus vite !» Et elles allaient si vite qu'il semblait qu'elles glissassent à travers les airs, en effleurant à peine de leurs pieds la surface du sol. Puis tout à coup, à l'instant précis où Alice touchait à la limite de l'épuisement, elles s'arrêtèrent net. Et la fillette se retrouva assise par terre, hors d'haleine et tout étourdie. La reine la fit s'adosser contre un arbre et lui dit avec gentillesse « Vous pouvez maintenant vous reposer un peu. » Alice promena son regard autour d'elle, fort surprise de ce qu'elle voyait. « Ma parole, je crois bien que nous sommes restés tout le temps sous cet arbre. Tout est demeuré exactement comme auparavant. » « Pour sûr que c'est demeuré exactement comme auparavant, » répliqua la reine. « Que vouliez-vous donc que cela devint ?»« Eh bien, dans notre pays à nous, » répondit Alice, encore un peu haletante, « si l'on courait très vite, pendant longtemps, comme nous venons de le faire, on arrivait généralement quelque part, ailleurs. »« Un pays bien lent, » dit la reine. « Tandis qu'ici, voyez-vous bien, il faut courir de toute la vitesse de ses jambes pour simplement rester où l'on est. » Si l'on veut aller quelque part ailleurs, il faut alors courir au moins 2 fois plus vite que ça.
la dame. Pardonnez-moi de vous importuner. Quel bizarre chapeau vous avez sur la tête.
Monsieur, vous vous trompez, car je n'ai plus de tête. Comment voulez-vous donc que je porte un chapeau?
Et quel est cet habit dont vous êtes vêtu?
Monsieur, je le regrette, mais je n'ai plus de corps. Et n'ayant plus de corps, je n'ai plus d'habit.
Pourtant, lorsque je parle, madame, vous répondez, et cela m'encourage à vous interroger. Madame, quels sont ces gens que je vois rassemblés et qui semblent attendre avant de s'avancer?
Monsieur, ce sont des arbres, dans une plaine immense. Ils ne peuvent bouger car ils sont attachés.
Madame, 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 au-dessus de nos têtes, quels sont ces yeux nombreux qui dans la nuit regardent?
Monsieur, ce sont des astres. Ils tournent sur eux-mêmes et ne regardent rien.
Madame, quels sont ces cris quelque part? On dirait que l'on rit, on dirait que l'on pleure, on dirait que l'on souffre.
Monsieur, ce sont les dents de l'océan qui mordent les rochers. Sans avoir soif, ni faim, et sans férocité.
Madame, quels sont ces actes, ces mouvements de feu, ces déplacements d'air, ces déplacements d'astres, roulements de tambours, roulements de tonnerres, on dirait des armées qui partent pour la guerre sans avoir d'ennemis?
Monsieur, c'est la matière qui s'enfante d'elle-même et se fait des enfants pour se faire la guerre.
Madame, soudain ceci m'étonne. Il n'y a plus personne, pourtant, moi je vous parle et vous, vous m'entendez, puisque vous répondez.
Monsieur, ce sont les choses qui ne voient ni entendent, mais qui voudraient entendre et qui voudraient parler.
Madame, à travers tout, quelles sont ces images, tantôt en liberté et tantôt enfermées, cette énorme pensée où des figures passent, où brillent des couleurs?
Monsieur, c'était l'espace. Et l'espace se meurt.